Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, réforme des institutions tout d'abord à venir, un changement majeur qui affecte à la fois le Sénat et l'Assemblée nationale, une baisse significative du nombre de parlementaires, une réaction à l'Assemblée nationale au ministre de l'Intérieur, du député Les Républicains de la 9e circonscription du Rhône, Bernard Perru. Puis, nous recevons François Boursier dans le cadre du Fait du Mois, cycle de conférences à l'initiative de l'éducation populaire à Villefranche. Il abordait le thème de l'Algérie, la révolution du sourire face à la catastrophisation de la situation. Et en conclusion, coup de projecteur sur Marianita Gaube, l'une des 10 artistes qui composent la nouvelle exposition Un été contemporain, elle, question de genre. Calade, le journal. Après plus de 3 mois de contestation populaire, le chef de l'État soudanais, Omar El-Béchir, au pouvoir depuis 30 ans, a été déposé par les forces armées du pays et arrêté jeudi 11 avril. Ce coup d'État qui a abouti à la mise en place d'une junte militaire à la tête du pays ne présente toutefois à ce stade aucune garantie de changement démocratique. Les propos recueillis d'Alan Caval pour le journal Le Monde. Roland Marchal, chargé de recherche au CNRS et spécialiste du Soudan, pour Le Monde, estime que le mouvement populaire, unique dans l'histoire du pays, qui s'est exprimé au cours de ces derniers mois, ne peut se satisfaire d'une telle issue. En l'absence d'une association de ses représentants à un réel processus de transition, il met en garde contre le risque d'une déstabilisation du pays. La mise à pied d'Omar El-Béchir par les militaires était la revendication centrale des contestataires. Pour les manifestants, l'armée était le seul interlocuteur légitime car elle est perçue et se perçoit elle-même comme l'épine dorsale de l'État soudanais, la garante de sa continuité par-delà les régimes successifs que le pays a connus. Mais sa réponse ne répond pas aux attentes. Le Conseil militaire a en effet annoncé une période transitoire de 2 longues années sans qu'aucune élection ne soit prévue, ni que le rétablissement de droits élémentaires ne soit annoncé. Au contraire, un nouvel état d'urgence est mis en place pour 3 mois. Ce n'était pas le message de concorde nationale qui était attendu par les manifestants. Ils espéraient un appel aux forces vives de la nation pour intégrer un nouveau gouvernement de transition, à même déclencher un dialogue national. Tout cela a de quoi susciter une amertume profonde chez tous ceux qui se sont mobilisés au cours des derniers mois. Il faut à présent que l'armée prenne la mesure de la volonté populaire et fasse de véritables concessions. On ne peut dès lors pas exclure une épreuve de force violente entre des secteurs de l'opposition et certaines forces au sein de l'appareil d'État, comme les milices populaires liées au parti présidentiel et toujours loyal à El-Béchir. L'armée va devoir choisir son camp entre ces 2 pôles, à moins d'un processus de transition inclusif. Il y a un risque de violence à court terme. Le groupe qui a pris le pouvoir n'a de toute façon pas les moyens de relever seul un pays à terre sur le plan économique.
Pour vouloir la belle musique, Soudan, mon Soudan, pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, Soudan, mon Soudan, suis de la parole échangée, on te casse les dents. Oh, et je rêve. Soudan, mon pays soudain se soulève. Oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça.
Réforme des institutions à venir, un changement majeur qui affecte à la fois le Sénat et l'Assemblée nationale, une baisse significative du nombre de parlementaires, le chiffre va être réduit de 30%, une réaction dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale au ministre de l'Intérieur du député Les Républicains de la 9e circonscription du Rhône, Bernard Perru.
Je suis effectivement intervenu il y a quelques jours pour interroger le ministre de l'Intérieur sur ses souhaits, sur sa volonté en termes d'organisation nouvelle, donc du Parlement. Beaucoup de Françaises, beaucoup de Français semblent souhaiter la diminution du nombre de parlementaires. Et je parle plus spécialement des députés, puisque les députés sont représentatifs de territoires, aujourd'hui, qui sont de l'ordre de 100 000, 120 000, 130 000 habitants, comme ici, pour ce territoire de Villefranche et du Beaujolais. Et bien évidemment, la diminution du nombre de parlementaires, eh bien, contribuerait à réduire fortement cette proximité vis-à-vis de nos concitoyens, alors que pourtant nos concitoyens réclament plus de proximité, plus de dialogue, plus de contact avec leurs élus. Et par conséquent, c'est quand même un petit peu contradictoire d'entendre cette volonté de réduction, alors que nos concitoyens, au contraire, nous demandent effectivement de porter leur voix, d'être à leur côté et de les défendre.
Les raisons peut-être effectivement à cette réforme sous-jacente ?
Cette réforme sous-jacente, elle est à la fois d'avoir des députés sur le terrain, mais aussi d'introduire une dose de proportionnel. Et si j'ai bien compris, le but du gouvernement, c'est d'à la fois diminuer le nombre de députés, 173 de moins, c'est-à-dire 30% de diminution du nombre de députés, et puis aussi supprimer effectivement un certain nombre de députés qui pourraient être élus sur le territoire avec la mise en œuvre effectivement de la proportionnelle. Donc ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de députés justement représentatifs de ce territoire, et nous aurons des circonscriptions qui pourront faire 200 000 habitants, et j'avoue ne pas bien savoir comment un député peut être actif sur un territoire aussi grand, avec autant d'habitants, avec autant de communes, et en gardant la proximité par rapport au territoire dont il est élu.
Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une question de coût, peut-être ?
Eh bien non, puisque justement le ministre a répondu que, bien évidemment, il faudra renforcer les moyens pour les parlementaires, plus de moyens, plus de collaborateurs, et que par conséquent, l'Assemblée nationale devra non seulement maintenir le coût, bien évidemment, mais encore le renforcer. Donc ce n'est pas du tout la raison, puisqu'au contraire, il faudra renforcer les moyens, et surtout en termes de collaborateurs, pour porter le niveau des collaborateurs au même niveau que les pays européens, puisqu'aujourd'hui, les parlementaires français sont les moins bien lotis pour travailler. Donc contrairement à ce que l'on pense, il faudra des moyens en plus.
L'Assemblée élue en 2020 ne comptera que 404 députés contre 577 aujourd'hui, et 15% d'entre eux seront élus à la proportionnelle. Réduction donc de 30% du nombre de parlementaires. Premier changement majeur qui affecte à la fois le Sénat et l'Assemblée nationale, modifiant drastiquement un chiffre qui n'avait pas bougé depuis 1986. Au Sénat, le nombre d'élus passera de 348 à 244, vraisemblablement à partir du prochain renouvellement partiel des sièges qui doit avoir lieu dès 2020. Algérie, la révolution du sourire face à la catastrophisation de la situation est le thème abordé dans une discussion par l'historien conférencier François Boursier dans le cadre du Fait du Mois, cycle de conférences à l'initiative de l'éducation populaire à Villefranche, qu'on écoute tout de suite.
C'est une révolution. C'est une révolution parce que maintenant, depuis le 22 février, tous les vendredis, vous avez aux alentours de 10 à 15, voire peut-être même plus, 20 millions d'Algériennes et d'Algériens sur un pays de 43 millions d'habitants. C'est considérable. C'est une révolution en ce sens que ils ne céderont pas sur le changement de régime. C'est 1789 chez eux, là. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on change les hommes comme on le fait à l'occasion d'une élection. Ils veulent qu'on change le système. Et c'est en cela, et quand on voit le processus maintenant, il est enclenché. C'est pas sans difficulté, mais il est enclenché. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est une révolution. Ce qu'il y a aussi d'assez étonnant et exceptionnel, c'est que cet événement-là nous a ouvert les yeux sur une Algérie qu'on ne soupçonnait pas.
Une révolution juvénile, j'allais dire.
Oui, alors juvénile parce que dans ce pays, 55% des gens ont moins de 30 ans, c'est-à-dire qu'ils sont nés après 1989. Donc presque 30 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Donc quand il dénonce ce système, quand on a vu même une pancarte où on voyait un jeune qui annonçait la mort du FLN, 2019, FLN avec une croix, on se dit, mais quand on sait ce qu'a représenté le FLN pour cette Algérie indépendante, c'est non seulement une révolution au sens où je disais, mais eux, en Algérie, dans les manifestations aujourd'hui, ils parlent de deuxième indépendance.
Et aussi une question d'image, une image complètement différente et même péjorative que l'on avait de cette jeunesse, plutôt une jeunesse, du, entre guillemets, si je puis dire, du cannabis.
Alors, c'est, quand je disais que ça nous renvoyait à une image d'un pays, d'une société, d'une jeunesse algérienne qu'on ne connaissait pas, c'est que quand on voit ce peuple dans les rues, tous les vendredis, mais il faut savoir qu'entre chaque vendredi, il se passe des tas de choses. Hein. On n'a pas les informations, mais il y a des réunions, il y a des échanges, il y a des débats. Ça parle. Ils font de la politique d'une certaine manière, mais ils le font dans la non-violence, la dimension pacifique de ce mouvement. Ils le font dans la solidarité. Ils le font dans le civisme. On a été stupéfaits de voir les jeunes qui, après les manifs, nettoie les rues avec des poubelles, la grande diversité, parce qu'il y a des jeunes femmes, des jeunes hommes bon, qui ressemblent à des étudiantes et des étudiants des universités françaises, il y a des femmes voilées, il y a des barbus, comme on dit quelquefois, et puis il y a, moi ce qui m'a beaucoup frappé, et qui frappe beaucoup, c'est l'humour dévastateur de cette foule en révolution.
Une Algérie qui a toute sa complexité, on va bien le dire, depuis de nombreuses années. Hein. Une Algérie qui a été maintenue, j'allais dire, même administrée pour, que ce soit les syndicats, les partis politiques, la presse. Voilà, c'est dans cet état-là qu'est aujourd'hui l'Algérie.
C'est une Algérie que le système a confisquée au peuple algérien. Une pancarte qu'on a vue très souvent et qu'on entend dans la bouche des manifestants, c'est « Rendez-nous l'Algérie ». Vous nous avez volé notre pays, rendez-nous-le. C'est le système, comme il dit. Il le dénonce et il veut l'en changer. Le système qui est issu de la guerre d'indépendance, c'est un ensemble composite dans lequel il y avait, alors sur ces 20 dernières années, il y avait le camp Bouteflika avec Abdelaziz et son frère Saïd. Il y avait tous les affidés comme l'ancien Premier ministre et d'autres. Il y avait l'ensemble des oligarques, le forum des chefs d'entreprise dont Idi Haddad, qui était une des grandes figures soutien de Bouteflika, est aujourd'hui en prison. Il a été arrêté. Il y avait l'armée et la sécurité avec Gaïd Salah, le patron de l'armée mis en place par Bouteflika. Et puis il y avait l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, le syndicalisme. C'est cet ensemble-là qui a complètement verrouillé le pays, verrouillé le système et dont le point d'achoppement et en même temps la base d'installation, c'était la rente pétrolière. Mais là, les gens, j'allais dire, ont cette fois compris et ils veulent que le système, je reprends leurs mots, dégage.
Les manifestations qui se déroulent depuis le 22 février révèlent une nouvelle génération déterminée à prendre son avenir en main. On est loin de l'image qu'on avait des jeunes absents de la vie politique, épaumés pour certains d'entre eux, nous confie Mustapha Amouche dans les pages du Courrier International. Dans ce renversement de situation, ce sont les plus jeunes qui furent à l'initiative de la manœuvre. Et les plus âgés leur ont emboîté le pas. Parce que le quatrième mandat pour une part, puis le projet de cinquième mandat pour une plus large part, sont venus couronner 15 ans d'arbitraire par 5 de violentes humiliations. Et pour conclure cette édition, coup de projo sur Marianita Gaube, l'une des 10 artistes qui composent la nouvelle exposition « Un été contemporain », elle, question de genre. À l'espace Cornille, annexe du musée Paul Dini à Villefranche. Des toiles aux alternances de couleurs cristallines qui tranchent avec des teintes vives ponctuées de touches fluorescentes dans un univers évanescent qui invite au regard.
Alors, effectivement, j'ai commencé à peindre assez jeune, à avoir une pratique de la peinture à l'huile que j'ai commencé, je pense, à peu près vers l'âge de 10 ans. Et j'ai eu une révélation, c'est quand je suis du coup en quatrième année de Beaux-Arts, je suis partie au Mexique, à Mexico. Et en arrivant là-bas, j'ai eu une révélation. Et là, pour moi, c'était une évidence en fait, qu'il fallait que je me remette à peindre. C'était aussi le contact avec la découverte des fresques, notamment, et du travail du corps dans ces fresques et aussi de l'espace, en fait.
Alors, on le ressent énormément quand on découvre pour la première fois, effectivement, votre travail, que Il y a une inspiration en quelque sorte touchée, en tous les cas en Amérique latine, et ça se voit plus particulièrement sur cette magnifique toile que vous avez intitulée La lutte amoureuse.
Effectivement, enfin, il y a quelque chose de la lutte. Ce tableau, il s'est inspiré de la lutte sénégalaise, pour être très exact. Et en fait, ce qui m'intéressait dans cette lutte, c'était l'ambiguïté qu'il pouvait y avoir en fait entre décors qui justement étaient en lutte et en même temps l'idée d'une image d'un acte amoureux et en fait de deux corps qui viennent de se rencontrer. Et finalement, en fait, ce tableau résume assez bien aussi les enjeux qu'il peut y avoir dans ma peinture. Ces collisions de sens qui sont parfois contradictoires en fait et du coup là c'est vraiment ça, c'est comment en fait le titre résume bien la situation de la peinture, mais comment ces deux corps se rencontrent dans une lutte amoureuse.
Un été contemporain, elle, question de genre, espace Cornille, annexe du musée Paul Dini à Villefranche jusqu'au 22 septembre. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade. Hé, souriez, c'est vendredi.